Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Voici l'appartement où je vis. Je l'ai loué en août sur Airbnb. J'ai gagné 1500 euros et c'est après que j'ai reçu cette notification, 30 000 euros.
Et ouais, parce que louer un appartement sur Airbnb à Barcelone sans se conformer à la loi, désormais, ça peut coûter très cher. Certains en font l'expérience. La ville a serré la vis et vous comprendrez ce que ça veut réellement dire dans l'escale reportage de ce soir. Sous les radars et Hélène Roussel, vous l'avez entendu au Canada, aux États-Unis, en Autriche, le cinéma en VO, Eva Béton, toujours à Cannes, bien sûr, avec des morceaux de Brad Pitt et Tarantino à l'intérieur. Le monde à l'envers de Jean Marfour qui nous parle du plafond de verre pour les femmes en Europe, dans les institutions, mais avant c'est en Inde que nous allons. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
6 semaines de vote, donc 7 phases, 900 millions d'électeurs. En une journée, on réussira à dépouiller tout ça dans la plus grande démocratie du monde, en nombre, hein, bien sûr. On a donc voté et on compte à partir de demain jeudi. Bonsoir Christophe Jaffrelot.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes directeur du CERI à Sciences Po. Vous venez d'écrire « L'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique ». C'est publié chez Fayeur, on viendra d'ailleurs à ce sous-titre parce que ça nous intéresse. Un mot de forme, 6 semaines pour voter, une seule pour dépouiller, comment
oui,
c'est possible?
Le rapport paraît un petit peu ambitieux.
Certes.
Je ne serais pas étonné que cette fois-ci, il faille attendre vendredi pour en vérité avoir des résultats véritablement fiables.
Mais comment ça marche en fait? Parce que c'est des machines en Inde principalement.
Hein. Oui, c'est ça. C'est un vote électronique. Donc c'est vrai que les machines crachent leurs résultats assez rapidement. Mais il faut quand même que 5% de ces votes soient vérifiés manuellement. Mmh. Et rien que cela, si on a un taux de participation qui est autour de 65% comme il y a 5 ans, vous imaginez, on a 500 millions d'électeurs, et même 5% de ce chiffre, c'est déjà beaucoup.
Mais il paraît qu'il y a même du vote papier qui tombe dans
c'est
une
ça.
Urne scellée pour être sûr, si jamais il y a eu tricherie électronique, on a la preuve papier en fait.
Ce sont les fameux 5%.
C'est
5%
ça.
De ces slips, de ces reçus en quelque sorte, vont être confrontés à ce que le résultat électronique a donné.
Et alors, on sait ce que c'est qu'une machine électronique. Des fois, ça marche moyen bien. Ça existe, le recomptage en Inde potentiellement,
et,
c'est possible ou pas?
Et cette année, les contestations sont très nombreuses. Pour la première fois, on voit les soupçons s'accumuler quant à la fiabilité de ce système. Il faut bien le dire, hein, beaucoup de pays reviennent au papier, reviennent au ballot paper, comme
voilà,
on dit.
Voilà. Le bon vieux système d'un papier
qui permet le recomptage, qui permet la vérification.
Alors, le mot populisme, c'est vrai, Christophe Jaffrelot est à la mode, j'allais dire, parce qu'on l'emploie partout en Europe, on l'emploie pour qualifier aussi Trump, aussi Bolsonaro, mais au fond, c'est vrai, et c'est vous qui nous le rappelez, le plus grand populiste, le plus grand populisme à l'échelle, en tout cas, c'est celui de l'Inde, c'est celui de Narendra Modi. Est-ce qu'on le met dans le même paquet, du coup? Est-ce que c'est un Trump indien, un Bolsonaro indien,
En un sens, oui, avec une différence, c'est que c'est un homme qui vient d'une organisation très ancienne, qui a presque maintenant un siècle d'existence derrière elle, et donc il n'est pas, comme la plupart de ces hommes politiques, le créateur de son parti, il est le produit de son parti. Hein. Et donc la comparaison... Trump aussi, mais enfin il l'a un petit peu violé son parti quand même. Lui est vraiment du CERA, Narendra Modi est un produit de ce parti. Et s'il fallait le comparer à d'autres, ce serait Erdogan qui serait le plus proche. Parce que derrière il y a une idéologie qui est très comparable, hein, qui est ethno-religieuse. Et donc c'est ça la différence, mais c'est une nuance en vérité, car le mode opératoire est très comparable. La façon de se présenter comme l'incarnation du peuple, le sauveur du peuple contre les menaces internes, externes de tous ordres, eh bien c'est la même chose. Et puis une capacité à être en relation directe avec l'électeur, avec le citoyen qui est de la communication de haut vol.
Effectivement, rejet des élites, parler directement au peuple. Ça, pour le coup, c'est très Trump, c'est très Bolsonaro.
Ça passe par les médias sociaux, ça passe par une saturation de l'espace public et par une parole qui est démagogique.
Mais du coup, comment il a gouverné, ce monsieur, ces 5 dernières années? Est-ce qu'il a gouverné tout seul? Est-ce qu'autour de lui, il y a finalement des gens qui sont plus ou moins des pantins, mais c'est vraiment lui qui a la main? Est-ce que ce fameux parti, RSS, on va l'appeler, qui est derrière lui, tire des ficelles? Comment il a gouverné pendant 5 ans?
Il s'est affirmé comme étant assez solitaire. Et ça, c'est effectivement nouveau, car jusqu'à présent, hormis Indira Gandhi, mais il y a très longtemps, Nous n'avions jamais eu à la tête d'un pays qui fait 1,3 milliard d'habitants une figure aussi solitaire, aussi puissante, qui a évidemment sa cour, qui a sa clique, qui a son entourage proche, mais c'est vraiment une garde très rapprochée. Le cercle extérieur est déjà un cran au-dessous et le gouvernement n'existe pas. Il n'y a pas de ministre, il y a 2, 3, 4 ministres tout au plus qui suivent leur dossier. Tout le reste est centralisé au niveau du Prime Minister Office.
Et est-ce qu'il a réussi à... Le terme est peut-être un peu fort. Est-ce qu'il a phagocyté les institutions autour de lui? On a beaucoup parlé de la Cour suprême en Inde qui semble être le dernier recours, le dernier repère.
Ouais. C'est la seule qui résiste, car effectivement, on a vu la commission électorale, on a vu le Central Bureau of Investigation, qui est le FBI à l'indienne. On a vu quantité d'institutions perdre leur poids, leur réalité sociale et leur crédibilité. Et les médias qui sont un des piliers de la démocratie, comme chacun sait, suivre cette évolution.
Mais est-ce qu'il est vraiment populaire, ce monsieur? Parce qu'on voit bien les foules derrière lui, y compris quand il les met tous au yoga. Mais est-ce que concrètement, c'est un homme populaire désormais 5 ans après?
Vous savez, ces hommes, et c'est vrai de maudits comme de ceux que vous avez cités pour commencer, polarisent. Donc il est populaire et même extrêmement populaire auprès d'une fraction de la société. Et il est extrêmement impopulaire, comme les Trump par exemple aux États-Unis, auprès d'une fraction qui est juste un tout petit peu moins nombreuse. Mais oui, on peut dire que ça marche. On peut dire qu'il aura probablement les 40 et quelques pourcents d'électeurs qui, dans un mode de scrutin à un tour, permettent de remporter une majorité.
Vous qualifiez ça de démocratie ethnique. Donc, c'est ce que vous disiez, peut-être effectivement à l'image de ce que fait Erdogan de son côté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les minorités chrétiennes et musulmanes? On a beaucoup vu un certain nombre de choses ces 5 dernières années, notamment des attaques très directes. Mais concrètement, est-ce que ça veut dire qu'on a enlevé les musulmans des institutions, par exemple? Là encore, est-ce que ça veut dire que l'accès à l'emploi n'est plus le même? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est musulman en Inde aujourd'hui?
Ça veut dire cela. Ça veut dire effectivement la disparition des minorités de l'espace public. Alors, d'institutions où elles n'étaient déjà pas très présentes, l'armée, la police n'ont jamais eu beaucoup de musulmans dans leur rang. Il faut dire que l'Inde est un grand pays musulman, avec 15% d'1,3 milliard, donc 180 millions de musulmans, c'est énorme.
Sauf qu'il reste 80% d'hindous quand même.
Il reste 80% d'hindous. Ouais. Et donc, ce que l'on voit avec cette ethnicisation de la démocratie, c'est que, eh bien, sur le papier, on est tous citoyens, mais en pratique, cette polarisation fait que, eh bien, on est rejeté quand on est minorité à la périphérie, ce qui veut dire moins de députés, par exemple. Il y a presque plus de députés musulmans. Ça veut dire aussi, concrètement, une difficulté à habiter des quartiers mixtes, des immeubles mixtes. Ça veut dire aussi, effectivement, une discrimination sur le marché du travail que l'on constate dès que l'on fait le moindre sondage. Vous envoyez le même CV avec un nom musulman, un nom hindou, et vous voyez bien qui est invité pour l'entretien d'embauche. Donc on est sur quelque chose qui relève de la démocratie ethnique, de fait, parce que ce mot nous vient d'Israël. La démocratie ethnique, c'est Israël qui l'a inventé. Une démocratie avec une cour suprême, une justice plutôt indépendante, une presse plutôt libre, des élections tous les 5 ans ou plus, mais en pratique, et même en droit en Israël, 2 citoyennetés, une citoyenneté à 2 vitesses. L'Inde invente la démocratie ethnique, de fait. Sur le papier, on est tous égaux. En pratique, il y a des minorités qui n'ont pas les mêmes droits.
Est-ce que c'est les thèmes sur lesquels l'opposition a plus surfé, notamment le Parti du Congrès, qui probablement a péché par 6 décennies de pouvoir, ça finit par user, qu'on le veuille ou non. Est-ce que ce sécularisme très grandi, on va dire, a remis ces gens-là, et y compris la famille d'ailleurs, sur le devant de la scène avec ces arguments-là? Est-ce que ça porte ou pas du tout?
Non, le sécularisme est un mot sale aujourd'hui. Être libéral, être progressiste, c'est quelque chose qui ne se vend plus. Donc le Congrès a plutôt couru après le BJP en montrant qu'il était tout aussi hindou que le parti au pouvoir. Et il a essayé autre chose en parallèle. Il a aussi essayé de faire le bilan des 5 années maudites en termes de création d'emplois. Il n'y en a pas eu. En termes d'appauvrissement, c'est quand même le cas général dans les campagnes. La crise agricole est absolument énorme et ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris parce que le discours de Modi a été placé sur un autre plan. Il a été sécuritaire. Les attaques pakistanaises islamistes du mois de février ont fait basculer la campagne dans un répertoire
au tout dernier moment.
Exactement.
C'est des choses qu'on connaît nous, chez nous aussi, mais on voit bien le résultat que ça peut donner sur 900 millions d'électeurs.
Et ça crée une émotion, ça permet de remobiliser, surtout qu'il a répliqué par des frappes aériennes d'un genre nouveau. Jamais encore l'Inde n'avait été frappée, le Pakistan, au-delà des zones contestées du Cachemire. Et donc, il a réussi à éviter le débat sur son bilan, d'autant plus que les médias sont en ordre, on peut dire, dispersés, mais surtout aux ordres du pouvoir, et que par ailleurs, il n'y a pas de débat contradictoire dans la politique indienne, il n'y a pas de conférence de presse dans la politique indienne.
Qu'est-ce qui fera qu'il mettrait de l'eau dans son vin? Parce que sa réélection, alors on ne sait jamais, hein, mais enfin, elle semble assez assurée. Qu'est-ce qui ferait qu'il mettrait de l'eau dans son vin, notamment dans cette politique hindoue très forte? Qu'est-ce qui fait que quand même il réfléchit en ce moment maudit à pas pousser le bouchon trop loin?
D'une part, les réactions internationales pourrait finir par être plus forte.
Ça l'atteint, ça?
Ça peut. C'est tout de même quelque chose que l'Inde affectionne. Enfin, l'idée qu'elle est la plus grande démocratie du monde, son pouvoir, son soft power, comme on dit, passe par là. Et écorner cette image, ça a un coût. Et ce qui pourrait aussi l'amener à faire plus attention à la façon de gouverner, c'est la façon dont les éléments qui étaient les plus extrémistes de cette nébuleuse nationaliste hindoue se retrouvent maintenant au cœur du pouvoir. On a des gens accusés de terrorisme qui ont posé des bombes dans les années 2007-2008 et qui étaient en prison, qui sont maintenant présentés comme députés, qui sont maintenant candidats à la députation. Ça donne une image, là aussi, assez dégradée, et ça peut susciter la crainte d'être débordé sur sa droite. Mais je pense que c'est les deux seuls facteurs qui peuvent jouer, et franchement, je ne pense pas qu'il va beaucoup modérer la façon de gouverner qu'il avait depuis 5 ans.
Vous l'avez un peu évoqué, économiquement, il avait dit en 2014, si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme faire entrer l'Inde dans la modernité, je crois que c'était ça son terme. Effectivement, de ce point de vue-là, vraisemblablement, c'est raté. Est-ce qu'il se passe des choses quand même de ce point de vue-là dans la société indienne aujourd'hui? Est-ce qu'on le lui reproche réellement? Est-ce que ça peut peser à terme?
À terme, bien sûr. L'un des économistes les plus neutres le disent, est au bord de ce qu'on appelle le middle income trap. C'est-à-dire que, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, il y a un plateau qui est atteint. Et la croissance, plus personne ne croit aux chiffres que l'Inde produit, n'est pas de 7%, elle est probablement de 5%, ce qui est pour nous beaucoup, pour eux très peu. Imaginez que tous les mois, il y a 1 million de demandeurs d'emploi supplémentaires vu la démographie. Donc, il y a évidemment un énorme défi économique et social de ce point de vue-là. Il y en a un autre qui est vraiment de l'ordre de la crise agricole, puisqu'on voit la paysannerie maintenant se paupériser de plus en plus. Ça va appeler des réformes. Il va bien falloir en passer par là, car pendant 5 ans, il n'en a pas eu, faut bien l'admettre.
Donc ça veut dire que, électoralement, comment ça se découpe d'ailleurs entre ville et campagne, par exemple? Est-ce que c'est précisément dans les campagnes qu'il perd des voix, qu'il les a perdues, qu'il faudra aller les chercher? C'est la ville qui vote pour Modi?
Oui, davantage. Ouais. C'est la classe moyenne urbaine, c'est la jeunesse. La jeunesse qui trouve en Modi son héros, celui qui affirme la puissance de l'Inde, la vigueur anti-pakistanaise. Donc ça va être effectivement un autre des défis. Et d'ailleurs, quand ce n'est pas Modi qui est candidat, son parti perd les élections au niveau régional. Et on retrouve le parallèle avec Erdogan.
Bien sûr, c'est donc tout la figure de Modi qui compte.
Exactement.
Uniquement. Mais cela dit, c'était la figure de Gandhi, c'était la figure... Ensuite, il n'y a eu que des figures en Inde, au fond, pour porter ce peuple-là.
Oui, sauf qu'entre les années, on peut dire, 80 et 2010, pendant 30 ans, l'Inde a vécu à l'ère des coalitions. Et c'est là qu'elle a fait le plus de réformes, paradoxalement. Ce n'est pas l'homme fort qui a la surface pour prendre des mesures courageuses, faire des réformes. L'homme fort, il est tellement fort qu'il n'a même pas besoin de faire ce genre d'efforts. Ce sont les coalitions minoritaires qui ont été les plus réformatrices, et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Inde.
Et on verra donc ce résultat, vous nous l'avez dit, peut-être plus vendredi que jeudi, parce qu'effectivement, dépouiller 900 millions de bulletins, c'est quand même un sacré exercice. Merci beaucoup Christophe Jaffrelot. Je rappelle que votre livre s'appelle « L'Inde de Modi, national, populisme et démocratie ethnique » et c'est publié chez Fayard. Merci beaucoup.
Merci à vous.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, ça se passe à Barcelone où l'on vote, tiens, d'ailleurs, dans les villes espagnoles en même temps que pour les européennes, vote pour les municipales. Barcelone qui a serré la vis pour ne pas être envahie par Airbnb. Et vous verrez ce que ça veut dire comme serrage de vis. C'est très très violent pour des gens qui louent leur appartement avec des centaines de procédures qui sont en cours. Sous les radars et Hélène Roussel, où l'on parle de harcèlement, de sévices même à la Fédération canadienne de lutte, où l'Autriche a inventé un jeu, un challenge, vous allez voir, qui s'appelle le Cuscus Challenge, je vous dis ça dans un instant. Le cinéma en VO, en direct de Cannes, ce sera avec Eva Béton, avec des morceaux de Brad Pitt, s'il vous plaît, à l'intérieur, et puis le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous allez nous parler du plafond de verre, Jean-Marc, celui des femmes aux institutions européennes. Et eh ben, il est pas très haut ce plafond.
Un homme sur deux est une femme, hein, mais pas dans les institutions européennes. Cherchez l'erreur.
Allez, on verra ça dans un instant, il sera autour de 18h55. Merci beaucoup Duffy sur France Inter. Merci. Duffy sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Merci, c'est le titre de la chanson.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimo Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Hélène Roussel et Nen, nous partons pour le Canada où la lutte, qui est l'un des sports majeurs dans ce pays, a été éclaboussée récemment par un très gros scandale.
Harcèlement, violence, alcoolisme. Un rapport révélé par Radio-Canada dénonce les entraîneurs de la Fédération nationale. Alors oui, la lutte, c'est un sport-spectacle très populaire là-bas. Sport de contact, comme on dit. Benjamin Tulle, célèbre lutteur québécois, se confie dans un documentaire en ligne. Extrait.
Je déteste pas la personne qui est en face de moi. Puis je sais comment ça va finir. Je tombe sur le dos, je me suis perforé le tympan, je me suis foulé les cheveux, il y a de tout, là. C'est sûr qu'un coup de chaise, ça reste un coup de chaise, là. Tout le monde pense que ça fait pas mal, mais ça fait mal, mais tu sais, tout fait mal.
Si, ça a l'air de faire mal, vraiment. Tympan perforé, cheville foulée, la lutte, c'est violent. Hélène, a priori, c'est le jeu?
Bah oui, sur le ring. Pas dans les vestiaires, a priori. Or, voilà ce qu'on découvre avec ce rapport qui donne la chair de poule. D'abord, les relations sexuelles entre coach et sportif sont monnaie courante, porte ouverte au harcèlement sexuel, vu l'emprise et le pouvoir de l'entraîneur. Le sexisme, on ne sera pas étonné, est une normalité à l'image de cet entraîneur qui ne s'adresse à sa lutteuse qu'en l'appelant traînée. Ça ne s'arrête pas là, il y a une vraie culture de la beuverie chez les entraîneurs du sexisme. sévissent aussi visiblement entre ceux qui se défoulent sur leurs athlètes, ceux qui les font courir jusqu'à vomir ou ceux qui les privent de nourriture. La liste est longue, accablante. Le rapport préconise de mieux former les entraîneurs et pourquoi pas de recruter plus de femmes. En attendant, à l'heure des qualifications pour les JO de Tokyo 2020, ça pue très fort dans les vestiaires.
Eh ben dites-moi, dans le genre sévices, c'est pas mal non plus. Partons pour les États-Unis, des salariés privés de pause pipi, contraints de porter des couches.
Ça paraît dingue, hein, mais c'est très sérieux. Encore un rapport signé cette fois de l'ONG Oxfam sur les employés qui travaillent dans les abattoirs de volailles. 250 000 personnes sont concernées. Dans cette usine du Minnesota, par exemple, citée par l'ONG, 86% des ouvriers disent avoir moins de 2 pauses pipi par semaine.
Par semaine.
Bien entendu, ouais, par semaine. Citation d'un ouvrier, je devais porter des Pampers. Mais quel choix ont-ils vraiment? Les couches ou bien quoi? Certains adoptent le jeûne jusqu'à se mettre en danger, pendant que d'autres urinent et défèquent debout face à la ligne de montage. Bah oui, vous n'allez plus regarder vos nuggets de la même manière, Fabienne. En termes de cadence infernale, en tout cas, même Charlot, dans ses temps modernes, n'avait pas osé.
Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Allez, ça tourne pas vraiment rond en Europe, c'est le moins qu'on puisse dire. On a un peu plus léger aussi nos voisins autrichiens où on embrasse des vaches. Alors, il paraît que c'est pour la bonne cause.
Un nouveau challenge internet. Hashtag couscous challenge. Le site Castle incite les internautes à bisouter une vache avec ou sans la langue. Mais si, c'est écrit comme ça. Tout ça pour récolter des fonds à des fins humanitaires. Stupide et dangereux, dit le gouvernement autrichien. Les éleveurs aussi sont remontés comme des pendules. Déjà que la cohabitation entre les bovins et les promeneurs, ce n'est pas du tout cuit. Quelques accidents mortels au compteur, comme le cas de cette touriste tuée par un troupeau. L'éleveur a été condamné, ce qui avait déjà créé la polémique. Alors autant vous dire que ce couscous challenge, ça n'est fait pas beaucoup rire. Mais le chef du projet, Marnus Flats, interviewé sur YouTube, lui se défend. Après tout, chacun est libre d'assumer ses blagues, dit-il, et son argument massue. Il y a moins de risques d'embrasser une vache que de traverser la route, c'est lui qui le dit. Mmh. Il en a même fait un clip en anglais, guitare à la main, au milieu d'un champ, bucolique quoi, plusieurs milliers de vues en une semaine.
You are the one making all of me complete. You are the one out of a thousand. So hard to
me.
Hello, come on, my dear.
En plus, on voit des extraits, on les entend, hein, des vidéos d'internautes. Il y a celui qui enjambe la barrière, hilar, l'autre qui tente de rouler une pelle à la vache. Bref, grosse poilade. Moi, je vous laisse, je crois que je préfère encore relire Heidi.
Eh ben, écoutez, je vous en prie. Allez-y, mais revenez demain quand même, Hélène Roussel, dans un jour
à demain.
Merci.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et il y a du monde, c'est à Barcelone que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde. C'est vrai que l'Espagne vote pour les municipales en même temps que les européennes. À Barcelone, l'un des thèmes, c'est le tourisme de masse, le tourisme envahissant, le tourisme mangé par Airbnb qui a failli faire de Barcelone une ville qui ne laisse plus place à ses habitants. Bonsoir Mélanie Nunes.
Bonsoir.
Mélanie, Barcelone a pris ce problème à bras-le-corps, tolérance zéro. Louer désormais sur Airbnb sans se conformer strictement à la loi, c'est à vos risques et périls.
C'est près de son ancien logement que Benjamin nous a donné rendez-vous. Il y a 2 ans, ce Français, père de famille, locataire, a mis en ligne sur Airbnb son F4 pendant 1 mois lors de ses vacances. Mais quelques semaines plus tard, il reçoit une amende de la mairie de Barcelone, 60 000 euros à payer. Il découvre alors que la loi municipale interdit la location de logements entiers sans licence touristique.
Des 3 pages, quoi. C'est juste, c'est 60 000, vous avez 15 jours, si vous payez dans 15 jours, c'est 30 000. C'est juste, ils ont vu une annonce sur Internet.
Tu rentres dans la catégorie criminelle. Je m'étais dit, je vais aller les voir et je vais leur expliquer, voilà, je suis une famille avec 2 enfants, c'est juste pendant les vacances. Eux m'ont dit, ah, mais faut respecter les règles d'utilisation du site. Vous n'avez pas de licence touristique, vous pouvez pas louer votre appartement. En même temps, j'étais là, oui, mais vous m'envoyez tout le temps des messages, des mails de publicité pour dire loup, loup, loup. Ensuite, le proprio m'a dit, bon, maintenant, on va falloir quitter la parce que ce que vous avez fait, c'est inadmissible. J'étais là, bon, ok, quand? Il me dit, bah, à la fin du mois. Je sais qu'avec ma copine, on s'est dit, on va rentrer en France. Moi, je suis venu à Barcelone il y a 10 ans pour ouvrir un bar à vin français avec ma sœur. On a commencé 3 personnes, aujourd'hui, on est 14. Moi, je peux pas, du jour au lendemain, dire aux gens, chacun ses problèmes.
Car aujourd'hui, la réglementation est la même pour ceux qui utilisent la plateforme comme activité professionnelle et ceux qui, comme Niels, l'utilisent occasionnellement. Ce coach sportif est propriétaire d'un duplex de 60 mètres carrés dans un quartier populaire sur les hauteurs de la capitale catalane.
Ici, c'est un quartier de travailleurs. Voici l'appartement où je vis. Je n'avais pas trop d'argent pour mes vacances, alors je l'ai loué en août sur Airbnb. J'ai gagné 1500 euros et c'est après que j'ai reçu cette notification. 30 000 euros. 30 000 euros. Comment ? Mais c'est plus que ce que je gagne en un an, c'est une blague ? Non, non, ce n'était pas une blague. J'ai fourni des documents pour prouver que j'habitais bien ici, des factures d'Amazon et d'autres commerces. Trois lettres de voisins qui attestent que je vis ici. Aucune nouvelle de la mairie. Et j'ai porté plainte contre Airbnb.
Une rébellion organisée depuis deux ans par un avocat, Dylan Tarin, cofondateur d'Akaba, comprenez l'association des affectés d'Airbnb. Il défend des centaines de particuliers devant les tribunaux.
Il existe plus de 10 000 procédures en cours, avec des amendes entre 60 000 et 600 000 euros. On atteint près de 200 millions d'euros d'amendes aujourd'hui pour les citoyens de Barcelone. Il y a des gens qui ont vendu leur maison, d'autres qui empruntent de l'argent auprès de leur famille. Certains vont même demander un crédit énorme à la banque. C'est terrible ce qu'il se passe. On espère que cela n'arrivera pas en France. Et tout cela à cause d'une simple annonce sur Internet. Les inspecteurs interrogent tes voisins pour voir si tu vis ici. Ils prennent des photos de chez toi depuis l'appartement des voisins. Alors, pour se défendre, nous devons fournir de nombreux documents pour prouver que c'est un lieu de vie au quotidien. Par exemple, ton histoire de Google Maps pour montrer que chaque soir tu rentres bien du travail chez toi. Mais on doit absolument attaquer toutes ces décisions de justice. Sinon, la mairie saisit directement l'argent sur les comptes bancaires.
Un très gros budget pour traquer les fraudeurs. À la mairie, pas moins d'une centaine d'inspecteurs scrutent les annonces sur Internet et patrouillent dans la ville. Chaque habitant est également invité à dénoncer tout appartement suspect. Jeannette Sanz, adjointe chargée de l'urbanisme, se félicite des bons résultats obtenus en 4 ans.
Soit c'est une activité illégale, soit non. Il n'y a pas d'intermédiaire, qu'il soit professionnel ou particulier. Nous avons analysé 17 000 appartements depuis 4 ans. Et l'an dernier, il y a eu 670 sanctions. C'est 5 fois plus que l'année dernière. Nous avons réduit de 95% la location touristique illégale. Nous ne sommes pas qu'une ville touristique.
Mais un projet alternatif est en train de voir le jour à Barcelone. Airbnb permet de louer un appartement de particulier à particulier à un prix similaire aux plateformes classiques. Sauf que là, vous contribuez à des initiatives locales, explique Jonathan Reyes, 30 ans, son fondateur.
Nous avons déjà 500 appartements enregistrés. Airbnb, c'est une plateforme collaborative qui veut construire une ville autrement. Quand tu fais une réservation, tu peux choisir quel projet local tu décides de financer. Moi, je vais mettre mon appartement. Ici, où nous sommes, dans le quartier gothique, il est impossible de vivre maintenant. Certaines plateformes n'ont presque plus d'appartements à louer.
Un tourisme de masse qui sera l'un des thèmes majeurs de l'élection municipale à Barcelone. Ada Colau, candidate à sa réélection, en fait déjà l'un de ses principaux arguments de campagne.
Oui, l'élection municipale qui se déroule en même temps que les européennes. On aura l'occasion d'ailleurs dans un instant de poser la question de savoir ce qui intéresse finalement plus les Espagnols. Mélanie Núñez pour Un jour dans le monde, merci beaucoup. Et voici les raconteurs sur France Inter. Now that you're gone. Do
onto somebody new. Well, that didn't take long. And where you gonna go? Not that I care. And who can you trust now that I'm not there? Never known such unhappiness. Never thought it would be like this. What will I do now that you're gone? Now that you're gone. That you're gone. Now that you're gone.
Les raconteurs sur France Inter. Now that you're gone, tiens, si on allait à Cannes.
3, 2, 1, Inter. France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
Et le cinéma en VO, bien sûr, avec Eva Bétan. Bonsoir, Eva.
Bonsoir.
Eva, 25 ans après Pulp Fiction, mm-hmm. vous en avez parlé ici même hier. Tarantino a donc présenté hier soir, avec une très belle montée des marches, Once Upon a Time in Hollywood. Un hommage au cinéma qui a été suite de son enfance, suite des années 60, des années 70. Je sais que vous n'avez pas le droit de nous raconter ce qui se passe réellement à l'intérieur.
Jusque-là, ça va.
Voilà, jusque-là, ça va, ouais. En revanche, ce que vous avez le droit de faire, c'est de rencontrer Brad Pitt, Leonardo DiCaprio.
Et vous me plaignez, n'est-ce pas?
Et je vous plains, je vous plains terriblement. Ça s'est bien passé?
Très bien. DiCaprio, d'abord, ils sont beaux. Commençons par les choses très terre à terre. DiCaprio joue un acteur de série télé sur le déclin et Brad Pitt est encore, en position encore pire. Il est son cascadeur, chauffeur et factotum. Le duo est très drôle et Tarantino s'offre le plaisir de tourner des fausses scènes d'un western bidon, d'une série de western bidon dans lequel il tourne qui s'appelle Chasseur de primes. DiCaprio, donc, dans le film, a pour voisin le cinéaste de Rosemary's Baby qui est alors au sommet de sa gloire, Roman Polanski, et sa femme Sharon Tate, enceinte et qui sera assassinée, on le sait, et elle est représentée, elle est jouée par Margot Robbie. On a d'ailleurs posé la question à Tarantino, est-ce qu'il avait demandé l'autorisation à Polanski d'évoquer cette histoire de sa vie? Il a dit non. Alors, c'est un film qui, comme toujours, il y a une sorte d'amour et de nostalgie du cinéma chez Tarantino. Mais là, ça prend une forme particulière parce que ça se situe en 69. L'Amérique est en train de changer, le cinéma aussi. C'est la période du nouvel Hollywood qui arrive, c'est l'année d'Easy Rider. Et il y a encore les ringards qui sont là. Il y a une petite tristesse en filigrane que ressent aussi Leonardo DiCaprio. Lui, il fait partie de ceux qui sont aujourd'hui au sommet de la pyramide, mais il la ressent quand même.
Un film comme celui-ci est sur Hollywood, sur un certain type de film. Ces films n'ont pas disparu, mais ils sont plus rares, les films subtils. C'était l'époque où les metteurs en scène étaient les vedettes. Le film nous ramène à un genre de réalisation de film que j'aime regarder. D'une manière générale, je suis un nostalgique. Une part de moi vit dans les années 30 ou 40. C'est pour cela que Tarantino situe son histoire dans le passé. Beaucoup de choses allaient changer. C'était la fin de l'innocence. J'ai grandi en entendant parler de l'affaire Manson. Mes parents étaient des hippies. Ils m'ont dit que cela signifiait la perte de tout ce qu'ils avaient connu. Quentin se sert de ce film et de cette époque pour mettre en scène des tranches de vie à Hollywood, vues par des gars qui étaient des outsiders, qui appartenaient à une époque révolue, et pour montrer comment notre pays et le monde ont changé.
Alors Eva, le film a coûté 90 millions de dollars. Tarantino a mis des années pour le faire et il a été terminé in extremis pour être à Cannes. Ça fait partie de la légende Tarantino, ça aussi, ça a un côté fou en fait.
Ça, et même de Cannes, parce qu'il y en a d'autres qui ont vécu cette aventure. Mais on a vraiment l'impression du risque quand la lumière s'éteint. On dit, voilà, ce type-là est en train de montrer à 2 ou 3 000 personnes, c'est-à-dire au monde entier. Le rapport de il voulait le faire, hein, parce qu'il aime cette adrénaline. Le rapport au cinéma de Tarantino est très particulier. Si vous voulez, c'est son lait maternel, c'est son biberon, c'est sa lunette pour voir le monde, c'est tout. Et donc, on s'est demandé comment c'est un tournage avec Tarantino, Brad Pitt, puis Tarantino répondent.
Aucun plateau de tournage ne ressemble à celui de Tarantino. Il a une telle joie, une telle éloquence, un tel intérêt pour l'histoire du cinéma que c'est un plaisir d'y être. On passe autant de temps à se raconter des histoires sur le plateau qu'à tourner. Quentin est comme ça. Il ne va interrompre une bonne histoire que pour faire une prise, mais il fera la prise. On la fera la prise aussi.
On passe des moments agréables. On écoute de la musique, tout ça est une fête. C'est une aventure artistique, nous sommes une famille. On n'est pas chacun sur son téléphone, on travaille ensemble, on fait la fête à la fin de la semaine. On est fiers de ce qu'on a tourné, alors on a une tradition. Au bout d'un certain nombre de minutes de film tourné, on arrête et on fait une petite fête avec une boisson vedette. Une fois, ce sera de la piña colada, une fois une margarita ou un Bloody Mary. On a un rapport romantique au film.
On n'est pas sur Terre pour souffrir. Je crois que j'en arrive à cette conclusion.
J'adore l'idée de la boisson vedette. Quelle est la boisson vedette du soir à Cannes? Quand est-ce qu'on le voit en France? Rappelez-le nous, Eva.
Il va sortir en juillet.
Eh ben, écoutez, on y sera.
On vous donnera la précision.
Absolument. Vous aurez l'occasion de nous en reparler. Merci beaucoup, Eva Bétan, à Cannes. Merci.
Le 18-20. Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, donc J-4 pour les élections européennes, soirée spéciale aujourd'hui. On reste ensemble jusqu'à 21h avant le grand débat, le dernier grand débat du service public de la campagne. Et à cette occasion, vous vous intéressez-vous à la féminisation des instances européennes? Ça progresse, mais doucement le matin, pas vite le soir. En quelque sorte, malgré de belles paroles, on est encore très loin de la parité. Et c'est votre monde à l'envers.
À la vitesse de l'escargot, c'est comme ça que ça progresse, la parité en Europe. En 40 ans, on est donc passé de 16% de femmes au Parlement européen à 36%, 273 femmes sur 751 élus. On se dit que ça avance. Et puis 36%, c'est mieux que la moyenne des parlements nationaux qui composent les 28 pays de l'Union, 28% de femmes députées. Mais une fois qu'on a dit ça, si on entre dans le détail, c'est moins reluisant. D'abord, il y a de très grandes disparités selon les pays. Seule la Finlande, l'Irlande et la Croatie dépassent les 50% de députés, députés EES. La Suède et Malte sont à parité parfaite, 50-50. La France s'en tire pas trop mal, 43%. Après, ça se dégrade. Et 6 pays comptent moins de 20% de femmes élues à Strasbourg. La Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Estonie, la Lituanie et Chypre. Au sein des groupes parlementaires cette fois, les Verts, les Libéraux et les Sociaux-Démocrates ont fait des efforts. En revanche, à droite, c'est pas terrible, particulièrement au sein du Parti Populaire Européen, le principal groupe de droite et le principal groupe du Parlement, seulement 28% de femmes. Il faut dire que sur les listes électorales, peu de pays imposent des quotas, voire carrément la parité. En gros, la France, la Belgique, la Pologne, l'Espagne, le Portugal, la Slovénie aussi. Partout ailleurs, chacun fait ce qui lui plaît.
Et alors, en haut de la pyramide, Jean-Marc, sur les têtes de liste et les postes à responsabilité.
Alors là, bim, on cogne sur le célèbre plafond de verre des femmes, oui, mais pas en haut de l'échelle. Prenons d'abord les listes. Tiens, au hasard, la France. 34 listes. Combien de femmes têtes de liste? 9. Bel effort. Si on grossit la loupe sur les listes principales, il ne reste plus que deux femmes, Nathalie Loiseau et Manon Aubry. Zoom arrière maintenant. Élargissons le regard, examinons l'ensemble de l'Europe. Les Spitzenkandidaten, je sais que vous adorez le mot, Fabienne. Autrement dit, les candidats des différents groupes parlementaires à la présidence de la Commission. Il y a bien l'écologiste allemande Ska Keller et la libérale danoise Margrethe Vestager. Mais qui en haut des deux grands groupes, le PPE déjà cité et les sociaux-démocrates? Des hommes, quelle surprise, Manfred Weber, Frans Timmermans. Tiens d'ailleurs, devinez. Combien de femmes, en 40 ans, ont présidé le Parlement européen? Tic-tac, c'est le jeu des 1000 euros. Mmh. La bonne réponse est 2, pour un total de 6 ans sur 40 ans. Bel effort. Deux Françaises, Simone Veil et Nicole Fontaine. Vous en voulez encore? Vas-y. Alors regardez cette photo, je vous la montre ici en studio, vous la trouverez sur le site de France Inter. C'est la photo de famille officielle de la Commission européenne sortante. Et oui, ça saute aux yeux, c'est le règne des hommes blancs de plus de 60 ans. 19 hommes pour 9 femmes. La commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, à nouveau, est l'une d'elles. Et je vous livre ce qu'elle nous disait la semaine dernière à Paris. Regardez la photo, tous ces hommes réduits à exprimer leur personnalité à travers la couleur de leur cravate. Et au bout du compte, ils se ressemblent tous. J'oubliais de préciser, bien évidemment, aucune femme n'a jamais présidé la Commission européenne. Pas davantage le Conseil européen, pas davantage la Banque centrale européenne. Faut pas pousser. En revanche, à Strasbourg, 60% du personnel administratif est féminin. Eh oui, tout est dit.
Alors, est-ce que ça peut changer après ces élections, dites-moi?
Je voulais dire, est-ce qu'on peut retrouver, comme dans Game of Thrones, des Cersei, des Daenerys, des Sansa dans les lieux de pouvoir? C'est possible, sortez les dragons, les filles.
On dira pas qui finit sur le trône, mais...
Ah non, surtout pas. Voilà. Le vrai test, après le scrutin, ce sera le grand marchandage sur les 5, voire 6 postes clés. Présidence de la Commission, présidence du Parlement, il peut y avoir 2 coprésidents, présidence de la BCE, la Banque Centrale Européenne, du Conseil Européen et haut représentant pour les affaires étrangères, seul poste de haut rang occupé aujourd'hui par une femme, Federica Mogherini. Alors des noms circulent, Margaret Vestager encore elle, mais aussi Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, voire Angela Merkel. S'il y a 3 femmes sur 6 postes, alors là, ça sera le signe d'une vraie transformation. Ça pourrait changer pas mal de choses alors sur l'ordre des priorités dans les choix politiques européens, mais c'est pas gagné du tout.
Allez, Jean-Marc Fourré, le monde à l'envers. Merci beaucoup Jean-Marc, à demain. On va reparler d'Europe, tiens, au téléphone sonne après le journal. Et puis, avec des invités aussi, en attendant le débat des têtes de liste France Télé, France Inter, entre 20h et 21h. Allez, à tout de suite.